Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Virage et protégez-vous. Au programme, Gérons technologie, le nouvel âge d'or de la techno. Et comment préparer une année sabbatique ou un long voyage. Bonne écoute.
Gérons technologie, le nouvel âge d'or de la techno, un texte de Maxime Bilodeau, paru le 25 mai 2023 dans le magazine Virage. De plus en plus d'entreprises se lancent dans la course au Gérons technologie. De nouvelles technologies qui améliorent la vie des personnes aînées et de leur entourage. Et pour cause. L'un des plus profonds changements démographiques de l'histoire est en cours. Au premier coup d'œil, le panneau ressemble à un interrupteur au style vaguement futuriste. Il s'agit plutôt d'un terminal à écran tactile connecté à une plateforme d'intelligence artificielle. Mis en marché par l'entreprise montréalaise EV, cet assistant personnel pour la maison monitore les signaux ambiants, les analyse, puis identifie les risques associés à des comportements inhabituels ou imprudents. Le système peut détecter une chute ou une fuite d'eau, même remarquer que vous avez oublié de prendre l'un de vos médicaments. Il peut ensuite intervenir de son propre chef en temps réel. Il permet aussi aux résidents de démarrer une communication vidéo avec une simple commande vocale, de même que de contrôler une foule d'objets connectés dans le domicile. Notre mission est de favoriser l'autonomie des personnes âgées, aussi bien à domicile que dans les résidences privées pour aînés, résume Kevin Martin, chef de développement de produits et de l'expérience utilisateur chez EV. Monsieur Martin cite en exemple les habitations bord de l'eau situées à Saint-Charles-Borromée. Plus de 200 logements y sont équipés d'EV. Le personnel voit sa charge de travail s'alléger, ce qui lui permet de se concentrer sur des tâches qui apportent une réelle valeur ajoutée, fait valoir Monsieur Martin. Le système mis au point par l'entreprise peut aussi améliorer l'efficience énergétique en ajustant l'éclairage et le chauffage, par exemple. Anticiper le futur. Des systèmes comme celui d'EV s'inscrivent dans la tendance des gérons technologie, un mot valise composé de gérontologie, la science du vieillissement, et de technologie. Il désigne notamment les techniques et procédures innovantes visant à aider les personnes aînées à préserver leur autonomie ou à pallier certaines déficiences. Applications pour mobile, piluliers connectés, vêtements intelligents, appareils robotisés, les gérons technologies se développent à vitesse grand V. Le défi n'est plus seulement d'en créer de nouvelles, mais plutôt de les déployer dans des environnements réels, comme dans les résidences privées pour aînés, RPA, et les CHSLD, ou dans les domiciles des aînés et de leurs proches aidants. C'est entre autres pour accélérer cette mise en marché de gérons technologie accessible, abordable et convivial que le gouvernement du Canada a récemment annoncé un investissement de 47 millions de dollars. L'argent servira à soutenir un réseau pan-canadien d'entreprises et de centres de recherche piloté par deux consortiums, MedTech Plus et AgeWell, spécialisée dans ce créneau. Cela signifie que jusqu'à 100 jeunes pousses seront financées d'ici les 5 prochaines années. On ne peut pas avoir un signe plus clair de l'intérêt en faveur de l'AgeTech, Géron Technologie, se réjouit Pascale Audette, associée fondatrice et directrice de AgeTech Capital, une société d'investissement privé qui a vu le jour l'année dernière. À sa tête, des gens d'affaires du Québec qui veulent favoriser l'émergence d'entreprises innovantes pour assurer un meilleur avenir aux personnes âgées dans une société plus cohésive et diversifiée, peut-on lire sur son site. Mais encore, il y a une occasion financière à saisir, certes, mais il y a surtout des mentalités à changer quant à l'avancée en âge, élabore Pascale Audette. Elle décoche au passage une flèche aux publicitaires qui n'en ont que pour les 25 à 50 ans, ce public cible idéalisé qui serait, à tort, le seul à être branché et connecté. Choc démographique. Au Québec, une personne sur cinq est maintenant âgée d'au moins 65 ans. En 2061, ce sera environ une sur trois, soit près de 3 millions d'individus. Il n'y aura pas assez de place dans les CHSLD et les maisons des aînés pour accueillir tous ceux qui en auront besoin, prévient Kevin Martin, DV. De toute façon, ce sont des milieux de vie qui ne conviennent pas à tous. Raison de plus, comme Eve le fait depuis peu, de vendre sa technologie aux particuliers et plus seulement aux RPA. Le recours aux solutions innovantes, pensées spécifiquement pour combler les besoins des personnes âgées, deviendra vraisemblablement la norme dans les prochaines années. Selon une étude de l'Association américaine des personnes retraitées, les 50 ans et plus compteront pour 39 % du produit intérieur brut, PIB, mondial d'ici 2050, soit une contribution de 118 000 milliards de dollars. Le choc démographique est le plus grand défi du 21e siècle après la crise environnementale, affirme Lynn Landry, associée au sein de la firme AgeTech Capital. Il va nous falloir l'attaquer de tous les angles possibles parce que ça va tous nous toucher. Welby, Cubigo et Restless ne sont que quelques exemples d'entreprises spécialisées en Géron Technologie qui profitent déjà du marché bien établi dans ce secteur. D'autres s'ajouteront. Les besoins sont criants et le demeureront. En chiffres, 78 % c'est le pourcentage de Canadiens qui veulent vieillir à domicile selon un sondage national publié en 2021. Ils ne sont en revanche que 26 % à penser pouvoir le faire, notamment à cause du coût élevé des adaptations des habitations, révèle ce même coup de sonde qui parle d'un écart au vieillissement chez soi. 426 millions, c'est le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus que devrait compter l'humanité d'ici 2050, rapporte l'Organisation mondiale de la santé. C'est un chiffre trois fois plus élevé qu'en 2020. C'était Géron Technologie, le nouvel âge d'or de la techno, un texte de Maxime Bilodeau paru le 25 mai 2023 dans le magazine Virage.
Tiré de la revue Protégez-vous, écrit par Amélie Cléroux. le 19 avril 2023. Comment préparer une année sabbatique ou un long voyage? Congé sabbatique pour vous reposer et voyager, tour du monde en famille, télétravail à l'étranger, tous ces beaux projets demandent de la préparation. Comment planifier vos finances? Que faire de votre résidence, de votre voiture et de vos meubles? Devrez-vous quitter votre emploi? Quels sont les visas et assurances à prévoir? Nos conseils pour vous aider à passer du rêve à la réalité. Vicky Warren, son conjoint et leurs trois enfants sont en plein tour du monde pour 11 mois. Au moment où nous leur avons parlé, ils avaient environ 4 mois d'expérience derrière les bottines et venaient tout juste de terminer un trek de 5 jours au Népal. Ils ont vraiment bien fait ça, se réjouit la mère de famille, qui avait quelques craintes pour sa marmaille de 10 ans, 13 ans et 15 ans, en prévision des 5 à 7 heures de marche quotidienne. Depuis le début de leur voyage, la femme de 46 ans et sa tribu ont visité l'est de l'Europe, sont passés par l'Égypte, puis ont fait un safari en Tanzanie et un bond en Inde. Prochains arrêts, l'Asie du Sud-Est, avant 3 semaines en Nouvelle-Zélande en motorisé. Le voyage se terminera au Costa Rica après un saut au Pérou. Un tour du monde de la sorte vous fait rêver. À moins qu'un rythme moins effréné soit davantage votre tasse de thé, par exemple une année sabbatique pour découvrir la Dolce Vita italienne sous toutes ses coutures, ou pour traverser l'Amérique du Nord au volant de votre fourgonnette aménagée, peut-être envisagez-vous plutôt le télétravail à l'étranger, question de vivre une routine dans un tout autre décor. Ce sont des projets qui peuvent paraître audacieux et qui demandent du travail, convient Stéphanie Castonguet, planificatrice financière à la Banque nationale. Si c'était à ce point facile, tout le monde le ferait, ou presque. Cette professionnelle croit toutefois que cela est à la portée des gens qui le souhaitent vraiment. Ce n'est pas parce que vous avez une maison et des enfants que c'est inaccessible. C'est juste que ça demande plus de préparation, nuance-t-elle. Ça fait des années qu'on planifie de partir en tour du monde avec les enfants, confirme Vicky Ward. Ce voyage, qui mûrit et se concrétise depuis plus de 10 ans, a même été repoussé de 2 ans en raison de la pandémie de COVID-19. Le périple a demandé de la préparation, des heures de recherche, des compromis et beaucoup de points aéroplans. En effet, les 5 voyageurs ontariens ont pu payer presque tout leur vol grâce aux crédits accumulés avec le programme. Points aéroplans ou pas, si l'idée d'un voyage à long terme à l'étranger vous titille, nous vous présentons les aspects importants à prendre en considération pour faire passer votre projet du rêve à la réalité. Pensez à votre retour. J'aime dire que le départ se prépare en fonction du retour, souligne Stéphanie Castonguet. D'entrée de jeu, vous devez donc penser à l'après, bref, au moment où vous rentrerez. Où vous voyez-vous au retour? Dans la même maison, dans la même ville, à effectuer le même travail? Si vous souhaitez plutôt faire des changements de vie, par exemple vous rapprocher de membres de votre famille dans une autre région ou réorienter votre carrière, peut-être voudrez-vous arrimer ces différents projets. Ces réflexions, essentielles, auront une incidence majeure sur votre préparation et vos décisions, qu'il s'agisse par exemple de quitter ou non votre résidence ou encore de mettre fin à votre emploi. L'essentiel budget. Faites un bilan de vos actifs et de vos dettes pour déterminer comment se porte votre situation et vos finances, puis établissez votre budget. Où va votre argent? Y a-t-il des dépenses superflues que vous pourriez éliminer ou modifier? Avez-vous des dettes que vous traînez et que vous pourriez régler? Il vous faut faire un gros ménage de fond en comble pour revenir à l'essentiel et à ce qui est prioritaire pour vous en fonction de vos objectifs, insiste Stéphanie Castonguet. En outre, pour que votre projet soit à la hauteur de vos attentes, vous devez bien calculer ce qu'il vous en coûtera une fois votre voyage entamé. Par exemple, Lire sur une plage en Amérique du Sud à longueur de journée n'exige pas les mêmes moyens qu'organiser mille et une expéditions à travers le monde comme le font Vicky Ward et sa famille. Estimer un budget voyage en essayant de penser à tout, notamment le type d'hébergement que vous envisagez, le transport, l'alimentation, les activités et le coût de la vie dans le lieu de destination. Le taux de change aussi. Votre pouvoir d'achat à l'étranger n'est pas le même que si vous allez aux États-Unis ou au Mexique, illustre Stéphanie Castonguet. L'horizon d'épargne. Sauf exception, épargner constituera l'une des premières étapes pour vous approcher de votre projet. Pour ce faire, établir l'horizon de temps est primordial. Je n'aurai pas les mêmes conseils pour quelqu'un qui projette une année sabbatique dans 10 ans et une personne qui vise l'année suivante, fait remarquer Stéphanie Castonguet. On se disait qu'on ferait beaucoup de compromis pour économiser, mais finalement, on a été à l'aise. Les enfants n'ont pas eu à faire de sacrifices, ils ont quand même joué au hockey, fait de la danse. Je ne voulais pas que le voyage soit vu comme une punition, raconte Vicky Ward. En effet, évitez les objectifs d'épargne trop ambitieux et irréalistes. Y aller tranquillement et vous habituer à ce nouveau rythme de vie, c'est vraiment la clé du succès, estime Stéphanie Castonguet. Elle suggère aux gens de mettre de petits montants de côté régulièrement, par exemple à chaque paie ou tous les mois. De même, le véhicule d'épargne doit s'aligner à cet horizon de temps et vous permettre d'accéder au fonds le moment voulu. Si votre projet est à plutôt court terme, je n'irai pas avec une stratégie d'investir agressivement dans les marchés, ajoute la planificatrice financière. Vous risqueriez de devoir tout reporter en cas de chute boursière, par exemple. Congé sans solde ou différé, ou en toute liberté. Comme l'ont fait Vicky Ward et son conjoint, respectivement infirmière et enseignant, vous pourriez demander un congé à traitement différé. Ce dernier permet à votre employeur de retenir une portion de votre salaire directement sur votre paie en vue de l'année d'absence. Un exemple, vous recevez 80% de votre salaire pendant 4 ans. La 5e année, vous êtes encore payé à 80%, mais vous ne travaillez pas. C'est une pratique plus commune au public qu'au privé, convient toutefois Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, le CRHA. Votre employeur pourrait plutôt vous proposer un simple congé sans solde, c'est-à-dire que vous conserviez votre place au sein de l'équipe et votre ancienneté, mais que vous ne soyez pas payé pendant votre absence. En ce sens, vous pourriez créer votre propre congé différé en épargnant 20 ou 30% de votre salaire pendant quelques années, suggère Stéphanie Castonguet de la Banque nationale. Cette stratégie d'épargne a l'avantage de ne pas dépendre de votre employeur, que vous conserviez votre travail ou non. Enfin, certaines personnes retirent leur épargne, voire les fonds de leur régime enregistré d'épargne retraite, REER. Ce choix doit cependant être bien mesuré, surtout si vous approchez l'âge de la retraite, comme le rappelle la planificatrice financière. L'option peut être de prendre une année maintenant, tout en sachant que vous devez travailler 1 an ou 2 de plus à votre retour avant de prendre votre retraite. Évidemment, l'argent de vos REER sera imposé au moment du retrait, retenue d'impôt, dont le pourcentage varie en fonction du montant retiré, en plus d'être considéré dans vos revenus imposables. C'est donc un choix plus intéressant à faire si vos revenus totaux pour l'année d'imposition sont faibles. D'ailleurs, rencontrer un professionnel indépendant ou d'une institution financière, par exemple, un planificateur financier, vous aidera sans doute à y voir plus clair. Nous avons des outils de projection qui nous permettent de comparer différents scénarios, fait valoir Stéphanie Castonguet. Au besoin, d'autres professionnels, comme un comptable ou un fiscaliste, pourraient vous aider à comprendre les répercussions de pareilles décisions sur votre situation financière et fiscale spécifique. Quitter votre emploi ou pas. Vous n'êtes évidemment pas le seul maître de cette décision. La nature de votre projet et les politiques de l'entreprise rentrent ici en jeu. La durée de votre voyage, votre ancienneté, l'existence ou non d'une politique pour les années sabbatiques ou le télétravail à l'étranger, là où vous travaillez, etc., etc. S'il n'y a pas de politique en place, parlez-en quand même à votre employeur pour évaluer les possibilités de l'avis de Manon Poirier de l'ordre des CRHA. Peut-être aurez-vous droit à une belle surprise. Bien sûr, prenez-vous-y suffisamment d'avance et n'espérez pas non plus de miracles. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui voudront se lancer dans le recrutement temporaire pour vous remplacer en votre absence, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, signale-t-elle. Si vous donnez votre démission, il n'existe pas d'obligation de préavis pour les salariés, même s'il est d'usage que vous avertissiez votre employeur au moins 2 semaines à l'avance. Cela dit, dans un tel contexte, un plus long délai sera sans doute apprécié. Un préavis de 2 ou 3 mois, voire davantage, témoignera de beaucoup de considération de votre part, selon Manon Poirier, ce qui pourrait jouer en votre faveur dans le futur. Que faire de votre résidence et de vos biens? Vicky Ward et son conjoint souhaitaient conserver leur maison, mais ils espéraient la louer, notamment pour couvrir leur paiement hypothécaire. On est chanceux, on a réussi à trouver une famille qui est là pour 11 mois, souligne-t-elle. Ça aide beaucoup côté revenu, c'est un bel extra pour nous. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien, même si la fournaise et la laveuse ont brisé en leur absence. On a dû les remplacer d'ici, ce n'est pas évident, lance-t-elle. Louer votre résidence pourrait donc vous garantir un revenu d'appoint. Or, qui y vivra? Produire un bail avec le formulaire de bail du Tribunal administratif du logement, TAL, permettra de définir vos engagements respectifs, et ce, même si votre locataire est un proche ou une connaissance. De toute façon, l'occupation d'un logement avec l'accord du propriétaire entraîne nécessairement l'existence d'un bail verbal ou bail par tolérance. Un tel bail est valide et crée les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un bail écrit, indique d'ailleurs Éducalois à ce sujet sur son site Internet. Le propriétaire doit également remettre au locataire le formulaire intitulé « Écrit obligatoire » dans les 10 jours suivant l'entente verbale, en vente dans les bureaux du tribunal. Important, si vous vivez en copropriété, vous devez avoir l'accord du syndicat de copropriétaires pour louer votre résidence. Par ailleurs, vous pourriez bien sûr vendre votre habitation. Dans un tel cas, vérifiez si vous aurez des pénalités en ce qui concerne votre prêt hypothécaire et quels seront les frais encourus relativement à la transaction, courtier immobilier, évaluation, notaire, etc. etc. Et n'oubliez pas, tous ces frais se répéteront lors d'une nouvelle acquisition. Il importe aussi de réfléchir au marché immobilier, d'après Stéphanie Castonguet. Pourrez-vous procurer le même genre de résidence à votre retour pour un prix semblable? C'est difficile à projeter. Y en aura-t-il même qui seront offertes? Si vous êtes plutôt locataire et que vous souhaitez minimiser vos frais, vous pourriez par exemple céder votre bail ou sous-louer votre appartement. Dans ce dernier cas, le bail reste à votre nom et vous récupérez votre logement à votre retour, mais vous demeurez aussi la personne responsable auprès du locateur. Avant de sous-louer votre logement, assurez-vous d'en parler avec votre propriétaire qui ne peut pas refuser sans motif sérieux et de trouver une personne fiable. Quelle que soit votre situation, informez-vous au sujet des assurances habitation nécessaires si votre foyer est inhabité ou loué. Il est possible que vous ayez, par exemple, à payer des primes plus élevées. Stockez vos biens. En faisant le ménage dans vos finances prévoyage, pensez à vous débarrasser des biens qui sont superflus, surtout s'ils vous coûtent encore de l'argent ou qu'ils perdent de la valeur au fil du temps. Par exemple, une roulotte qui traîne dans la cour et ne répond visiblement plus à vos besoins. En revanche, si vous vous départissez de votre habitation et que vous la sous-louez à plus long terme, vous devrez aller encore plus loin. Disposez-vous d'un endroit où entreposer vos affaires, par exemple chez des amis, des parents ou quelqu'un d'autre? Devrez-vous plutôt louer une unité de stockage? Un mini-entrepôt de 5 pieds par 10 pieds, 50 pieds carrés ou 4,6 mètres carrés, équivalent approximativement à une grande pièce penderie, walk-in en anglais, ou à un camion cube de 10 pieds, coûte autour de 100 $ par mois. pour un espace de 10 pieds par 15 pieds, 150 pieds carrés ou 13,9 mètres carrés, soit l'équivalent d'une chambre à coucher ou d'un camion de 20 pieds, prévoyez plutôt de 200 à 300 $ mensuellement. Magasinez l'offre dans votre région, bien sûr. Vous prévoyez vous débarrasser de tout, ou presque, en vendant ou en donnant vos affaires? Bien entendu, c'est possible de le faire, mais pensez-y à deux fois, car vous devrez probablement vous en procurer de nouvelles un jour. Sortez votre calculette. Entre le montant investi pour stocker vos biens et une estimation réelle de ce qu'il vous faudrait pour les racheter, neufs ou usagés, quelle option s'avère la plus intéressante? À moins de posséder uniquement des choses de faible valeur et d'avoir des besoins minimalistes, une unité de stockage risque de se révéler plus intéressante, surtout si c'est pour un an ou deux. Peut-être la solution optimale pour vous serait-elle toutefois de vendre les plus gros objets, comme certains meubles et électroménagers, afin de n'entreposer que l'essentiel. Ainsi, l'entreposage de vos biens ne vous coûterait par exemple que 100 $ par mois pour un total de 2 400 $ après deux ans, au lieu de 300 $ par mois et une facture de 7 200 $.
Pour entendre la suite de « Comment préparer une année sabbatique ou un long voyage », veuillez rester à l'écoute puisque « On lit pour vous » continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Serge Hamelin à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.